CFM en Tarn-et-Garonne, le mag.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio avec Brigitte Barège qui est notre invitée aujourd'hui. Pardon, après plus de 20 ans de responsabilité à la tête de Montauban, l'ancienne maire, députée et présidente du Grand Montauban est de nouveau éligible depuis quelques jours après l'empêchement prononcé à son encontre en 2024. Quel regard porte-t-elle sur la nouvelle majorité municipale? Quel bilan dresse-t-elle de son parcours? Envisage-t-elle un nouvel engagement politique? Elle va nous le dire aujourd'hui peut-être. Et comment analyse-t-elle les recompositions de la droite ainsi que les grands enjeux de l'élection présidentielle de 2027? Autant de questions que nous allons lui poser aujourd'hui. Brigitte Barège, bonjour.
Bonjour Kader.
Merci d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio et bienvenue dans Politiquement Votre.
Merci pour m'avoir invité.
On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Nous avons 25 minutes. Votre parole est attendue, Brigitte Barège, puisque beaucoup de bruit circule sur vous, notamment, et on va en parler, sur une hypothétique candidature au Sénat. Pendant plus de 20 ans, tout d'abord, vous avez vécu au rythme des campagnes, des conseils municipaux, des décisions du quotidien. Aujourd'hui, vous entamez une séquence très différente de celle que vous avez connue jusqu'à présent. Après plus de 20 ans de responsabilité, retrouve-t-on un jour une vie politique, j'allais dire, normale, ou reste-t-on définitivement un élu, même quand on n'a pas de mandat ?
Difficile question, je ne suis plus élue, c'est sûr, mais je suis toujours habitée par la même passion. La passion de servir, je crois que, je le dis souvent, un élu, il faut qu'il aime les autres, il ait envie de servir les autres. Si on n'aime pas les gens, ça se voit très vite. Donc, la même passion pour servir, mais surtout pour redresser ce pays, la France, qui, me semble-t-il, en a bien besoin.
On va en parler de la France.
Bien sûr.
Mais cette période là, que vous avez traversée, elle vous a conforté dans certaines convictions ou au contraire, elle a fait évoluer quelques certitudes que vous aviez jusqu'à présent?
Non, plus que jamais, je suis inquiète. Je suis toujours de plus en plus inquiète sur le sort de notre pays, sur son déclin dans tous les domaines. On en parlera tout à l'heure.
Oui.
Notre perte de souveraineté, les dangers sur la liberté d'expression. Je ne parle même pas des finances, des déficits publics. L'insécurité grandissante, le problème de la justice. Bref, les sujets sont multiples.
Mais on va en parler de ces sujets. Mais je reste sur cette période que vous avez traversée, qui est quand même importante. On parle souvent de résilience. Quand un responsable politique traverse une épreuve, ça a été votre cas. Vous reconnaissez-vous dans ce mot résilience ou vous considérez qu'il est un peu galvaudé, ce terme?
C'est un joli mot, il sonne bien.
Oui.
Et je pense qu'il a du sens. C'est vrai que quand on subit une épreuve, quelle qu'elle soit, il y a un moment de colère, un moment de désespoir, je ne vais pas vous mentir. Et puis, il y a cette petite lumière d'espérance qu'on a au bout du chemin. Et c'est ce qui vous permet de vous redresser. En tout cas, c'est ce qui m'a toujours permis de me redresser. Je déplore, si vous voulez, autant la première fois où j'avais été déclarée inéligible, il y avait un recours, la Cour d'appel m'a relaxée. Là, je déplore vraiment que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, qui s'érige en juridiction, ce qui n'était pas du tout prévu par la Constitution de 1958, il n'y ait pas de recours. C'est une véritable anomalie qu'il faudra vraiment réformer.
Vous avez toujours donné l'image d'une femme de caractère, une femme de conviction, une femme puissante. Le caractère est-il une qualité indispensable pour exercer le pouvoir ou est-ce parfois aussi ce qui peut desservir?
Je crois qu'il faut du courage surtout. Il faut avoir des idées, il faut avoir le courage de les mettre en œuvre. C'est pas toujours facile, donc ça demande de l'endurance. Je sais pas si c'est ça le caractère, de l'énergie. Il ne faut pas se décourager. Et si je me lance dans cette nouvelle campagne, c'est que je crois que beaucoup de maires aujourd'hui, beaucoup d'élus locaux sont découragés. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, on va en parler justement. Mais pendant cette période, Montauban, il a connu une campagne municipale particulièrement intense. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, votre nom ne figurait pas sur un bulletin de vote au municipal à Montauban. Et pourtant, vous n'étiez jamais très loin. On a senti, vous n'étiez pas candidate, mais beaucoup ont eu le sentiment que cette élection parlait encore beaucoup de vous. Et vous avez été présente et vous avez concentré l'essentiel de vos attaques, de vos critiques envers Thierry Deville. Pourquoi? C'était un choix? Vous avez jugé que c'était lui et son équipe qui étaient la plus à même de peut-être de battre Didier Lallement?
Je ne suis pas d'accord, Kader. Je pense que oui, j'étais présente, mais je l'ai regretté d'ailleurs. J'ai déploré que c'était moi qui étais la victime d'attaques de tous les côtés. Je ne connais pas M. Labarre. Enfin, je centralisais les attaques. Alors, est-ce que c'était parce qu'il pensait qu'en m'attaquant personnellement, il décrédibilisait la candidature de mon candidat, de Didier Lallement? Peut-être. Mais je pense que j'ai été plutôt victime d'attaque. J'ai répondu une fois à Thierry Deville sur son engagement et sur son parcours politique.
Très vertement.
Non, j'ai rappelé l'histoire, simplement l'histoire.
Vous avez rappelé l'histoire. Didier Lallement est aujourd'hui maire de Montauban. Beaucoup le présentent comme votre héritier politique, fidèle parmi les fidèles en tout cas. Est-ce un qualificatif qui vous convient, héritier ou
non, successeur. On va pas parler des municipales trop longtemps parce que vraiment, j'ai été directrice de cette campagne, je l'ai menée avec toute l'équipe, on a travaillé ensemble avec Didier Lallement pour porter les programmes, porter les projets, assumer les bilans. Et maintenant, eh bien, il se débrouille. C'est une équipe qui est autonome. Didier Lallement connaît parfaitement les projets. Moi, je suis rassurée. Je suis rassurée pour Montauban. C'est ce que je souhaitais. Il me faisait très peur, tous les autres adversaires. Il y avait des idées un peu fantastiques. Là, aujourd'hui, je sais que tout va continuer, en fait. Mais il n'y aura pas de coupure.
Est-ce que vous êtes toujours, entre guillemets, aux manettes, pas indirectement? Est-ce que vous conseillez Didier Lallement sur des choix à venir?
Non. Pas du tout.
C'est-à-dire que vous êtes désengagé complètement de...
C'est-à-dire que je suis là. S'il avait besoin de moi, une fois ou deux, il m'a appelé sur les comptes de campagne, des choses comme ça. Mais moi, je considère qu'il doit mener sa route. Et d'ailleurs, lui-même aussi, il n'accepterait pas d'être sous tutelle. Moi, je trouve tout à fait normal. C'est tout à fait différent par rapport à la période où c'était Marie-Claude Berly, parce que j'étais encore élue. J'étais élue municipale, donc je prenais ma place d'élue dans les délégations qui m'avaient été données. Mais là, je trouve tout à fait légitime qu'il mène sa barque, si j'ose dire, qu'il porte sa trajectoire de façon totalement indépendante.
Sur votre mandat, les mandats que vous avez exercés en Montauban, c'est une dernière question sur Montauban, parce que comment ne pas parler de Montauban avec vous, Brigitte Barrette, vous en conviendrez.
C'est vrai.
Bon, beaucoup de vos opposants disent que sur toutes vos mandatures, vous avez oublié l'adaptation au changement climatique.
Ah.
C'est un dossier. Tous vos opposants, en tout cas, disent que vous n'avez pas été assez proactive sur ce.
Alors,
est-ce
attendez,
que vous regrettez de ne pas avoir été...
Mais attendez, mais vous plaisantez. Il ne faut pas renverser la situation. En tant que maire, j'étais obligée de respecter les lois.
Oui.
Et toutes les lois sur la transition écologique, les lois climat et résilience, tout ce qu'ont instauré Hollande et ses amis écologistes et qu'on subit aujourd'hui de plein fouet, j'ai dû les appliquer en tant que maire. Je vous donne l'exemple de la climatisation. Quand on construisait des écoles ou quand on les rénovait, nos services techniques et les architectes nous disaient on ne peut pas mettre de climatisation, on peut faire seulement des salles réfrigérées. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans nos équipements sportifs. Il a fallu même la médiathèque, il a fallu que je fasse un procès, un contentieux architecte après coup, parce qu'il n'avait pas prévu la climatisation. Et derrière les verrières, vous savez, du deuxième étage, c'était insupportable. Donc non, j'ai dû appliquer la loi. Vous savez, en tant que maire, j'ai souvent râlé. Et c'est pour ça que je me sens très proche d'eux, surtout ce que nous imposait aujourd'hui cette écologie mortifère, cette écologie punitive, ces difficultés qu'on a pour tout, pour l'accès à l'eau, pour l'environnement, pour tout ce qu'on, l'impossibilité d'utiliser des désherbants. Enfin, je pourrais vous faire une longue liste qu'on subit aujourd'hui. Moi, j'en veux beaucoup aux écologistes. Et c'est à eux qu'il faut faire le reproche. Et regardez l'exemple de l'accès à l'eau. On a interdit aux agriculteurs de faire des bassines. Vous croyez pas que ça nous servirait, toutes ces bassines, par rapport aux feux et aux incendies de forêt? Et je pourrais vous en dire beaucoup sur l'écologie.
L'étreinte est en train de se desserrer.
Moi, je pense sincèrement que nous subissons, et ça fait partie des projets, justement, sur lesquels je voudrais vraiment redresser le pays, il faut annuler toutes ces lois qui ont été pondues à l'époque par François Hollande, qui était victime de sa majorité écologiste, et toutes ces lois qui sont encore en vigueur, parce que Macron ne les a pas supprimées.
Vous supprimeriez toutes les normes qui...
Beaucoup de normes, il y en a beaucoup trop. Mmh. Beaucoup trop qui nous empêchent d'avancer, d'abord. Vous savez, ils voulaient la décroissance, les écologistes, ils y sont arrivés. On a perdu des rangs mondiaux dans tous les domaines. On parlera peut-être tout à l'heure.
Mais on va en parler, justement,
voilà,
Brigitte Barrèche. Vous retrouvez aujourd'hui, je le disais en introduction, votre liberté d'engagement.
Complètement. Elle l'a toujours été. Je l'ai payé cher, mais je suis toujours aussi libre.
Donc, est-ce que vous serez candidate au sénatorial de septembre prochain, Brigitte Barrèche?
Oui, mais écoutez, permettez-moi de vous l'annoncer en primeur, puisque j'organise une conférence de presse lundi, où je détaillerai un peu plus les choses. Mais oui, je vais me présenter à cette élection, parce que c'est le moyen pour moi de retrouver peut-être une parole plus entendue de parlementaire et pouvoir agir surtout pour renverser cette situation impossible que Macron et Hollande nous ont amené jusqu'à aujourd'hui.
Dans votre décision, et on va décliner tout ce qui, les sujets en tout cas,
oui,
qui sont nationaux, mais dans votre décision, est-ce qu'il y a aussi une part de stratégie politique avec Éric Ciotti, finalement, d'avoir des élus un peu qui irriguent tout le territoire français.
De toute manière, il est clair que ce jeune parti, l'UDR, qu'Éric Ciotti a eu le mérite de fonder et de créer, et auquel j'ai participé dès sa création, eh bien, a la volonté, évidemment, de le plus largement possible, de fédérer une union des droites réelle, qui soit une véritable alternative, une rupture par rapport aux politiques menées jusqu'à présent. Et il est vrai que si j'avais la chance d'être élu sénateur, avec d'autres, nous espérons peut-être pouvoir former un groupe au Sénat qui n'existe pas aujourd'hui. Vous savez qu'au Sénat, il faut un groupe de 10 sénateurs pour fonder un groupe. Ce qui est différent à l'Assemblée, là, il en faut 15 parlementaires.
C'est ça la stratégie, c'est d'avoir un groupe.
Comme on a fait à l'Assemblée nationale, on a un petit groupe de 16 députés, mais qui fait entendre sa voix. On a entendu Charles Lalonde. Enfin, c'est un groupe qui est combatif. C'est vrai qu'on est petit, mais on a vocation à s'agrandir. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Qu'est-ce que le Sénat représente pour vous, Brigitte Baratheon ? Vous connaissez très très bien l'Assemblée nationale, mais le Sénat, c'est pas une chambre qui, d'ordinaire,
C'est une chambre qui a varié dans le temps. C'est bien de se... Je faisais un parallèle celui avec le Sénat romain. Le Sénat romain, tout à fait au départ de la République romaine, avait tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Et puis, quand l'empereur dont Constantin est arrivé, les empereurs, au moment de l'Empire romain, ont repris la main sur le Sénat, qui est devenu une chambre d'enregistrement. Eh bien, le Sénat, aujourd'hui, c'est un peu ça. Moi, j'avais espéré... Vous savez, je suis très attachée à la démocratie et à la séparation des pouvoirs. Donc, il y a trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale. Quand il y a eu l'avènement de Hollande, mais surtout de Macron, eh bien, on avait un Sénat assez combatif, qui arrivait à enrayer, un petit peu modifier les textes de l'Assemblée nationale portés par les macronistes. Malheureusement, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, parce que Macron a très bien joué, il a récupéré comme ministre, beaucoup de sénateurs, dont parmi lesquels le plus connu, peut-être Bruno Retailleau, mais il n'y a pas que lui. Bruno Retailleau était quand même pas moins que le chef du groupe le plus important du Sénat, des groupes LR. Oui. Donc aujourd'hui, tout cela est tombé dans la Macronie. C'est du centrisme mou. C'est tout ce que je déplore, tout ce que je veux combattre, et je vais essayer d'expliquer pourquoi.
Vous aurez face à vous une multitude de candidats, et notamment les deux sénateurs sortants, Pierre-Antoine Lévy, que vous connaissez très bien, François Bonhomme, que vous connaissez aussi également. Il y a eu Quentin Lamotte qui s'est déclaré très dernièrement. Est-ce que vous allez former une équipe avec Quentin Lamotte ?
C'est une
investiture UDR-RN, on est d'accord ?
Oui, c'est une investiture, oui, tout à fait. Donc, puisque on avait confié, nous avions deux départements dont il y a eu des accords nationaux, deux départements où on laissait à l'UDR la main, et bien c'est les Alpes-Maritimes chez Éric Ciotti et le Tarn-et-Garonne avec Brigitte Barège. Donc bien entendu on mènera une campagne commune, on aura des sujets communs avec nos spécificités, avec nos relations, nos liaisons de terrain. Moi je connais mieux la première circonscription, puisque j'ai été députée trois fois sur cette circonscription. J'ai tout à découvrir sur la deuxième circonscription, une bonne partie, et je compte bien m'y mettre et aller à la rencontre des élus le plus rapidement possible.
Il y a cette étape du Sénat, des sénatoriales, et il y a aussi la présidentielle qui est en bout de ligne, qu'on voit apparaître.
Oui, ce sera une première marche vers cette reconquête du pays, je l'espère de tout mon cœur, même si le Sénat, vous le savez, ne se renouvelle que pour moitié, cette fois-ci, tous les trois ans, c'est un mandat de 6 ans. Je voudrais dire à propos de mes concurrents et non pas de mes adversaires que je connais, vous avez bien raison de le dire.
Je vais quand même terminer.
On va en reparler.
Vous allez poursuivre, mais je vais aussi citer les autres, Annius, Rodolphe Portolès, Gérard Kraïs, Quentin Lamotte, je l'ai dit, Cécile Roblin, qui n'est pas encore déclarée, et Jean-Philippe Béziers.
On est une petite dizaine, je crois, d'après ce que j'ai vu, puis ça peut être grossir encore, puisque la déclaration de candidature officielle, c'est début septembre, donc on a un peu de temps. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'estime, je n'ai pas de problème avec les personnes, je connais, comme vous l'avez dit, beaucoup d'entre eux, et je respecte les personnalités. Simplement, aujourd'hui, il faut voir, ça m'amuse, parce que certains disent, je suis au-delà des clivages politiques, je veux être un élu de proximité. Alors, ce qui était rigolo, parce que je pense à M. Kreis, qui était le suppléant de Mme Rabault, qui est tout à fait socialiste, il parle surtout pas du parti auquel il appartient. Il faut quand même me rappeler aux grands électeurs, mais ils le savent, c'est que quand vous devez être honnête avec vos électeurs, c'est-à-dire que une fois élu, il faut qu'ils sachent de quel côté vous allez vous placer, dans quel groupe vous allez siéger. Il y a énormément de groupes centristes au Sénat, vous le savez sans doute. Hein. Oui. Il y a des communistes, il y a des écologistes. Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont fait. C'est assez complexe. Hein, les noms ne correspondent pas du tout au parti qu'ils représentent. Mais en tous les cas, la seule qui a un peu annoncé la couleur, c'est Mme Yus, qui rappelle qu'elle va être dans le groupe traditionnel des radicaux de gauche, qui s'appelle le RDS, le Rassemblement démocratique et social européen. Ouais. Bon, c'est encore des noms à rallonge. La seule chose qui est importante de savoir, que ferez-vous quand vous serez au Sénat? Est-ce que vous allez voter avec Macron? Est-ce que vous allez continuer cette politique de ventre mou, excusez-moi de le dire, de ce déclin inexorable dans lequel nous sommes plongés depuis 15 ans? Ou est-ce que vous avez envie d'être un candidat de rupture, un candidat de redressement national? C'est là-dedans que je m'inscris. Et je crains fort que par rapport aux 8 autres, je sois la seule avec monsieur Quentin de la Motte. Voilà, c'est ça le clivage, il est là.
Vous mettez tous les autres dans le
même... Oui, je les aime bien, mais il faut voir leur bilan. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voté véritablement de différent? Gérard Larcher s'est complètement mis dans les mains de Macron aujourd'hui. Donc il a perdu toute combativité. Et je prends l'exemple de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui se présente au sénatorial, il est renouvelable.
Qui était votre ami il n'y a pas si longtemps.
Mais ils sont tous mes amis, je les aime tous. Mais je n'ai pas de problème, moi. D'accord. C'est pas une relation affective, là, c'est rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger.
Ami politique aussi.
Oui, Retailleau, mais d'ailleurs, quand il a été ministre de l'Intérieur de Macron et j'étais député en 2024, voilà. Je l'ai soutenu sur la loi sur le narcotrafic. Je vous dirai un mot, comme toujours, qui a été retaillé par le Conseil constitutionnel. Ça ne sert à rien de voter à l'Assemblée aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel retoque toutes les lois qui sont votées. J'ai voté déjà l'abolition du ZAN, l'abolition des ZFE, on en parlera tout à l'heure. Tout cela, on l'avait déjà voté. Sauf que Macron, il est tranquille. Il appelle son copain Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. Tu mets du corps le texte, voilà, il faut faire plaisir à tout le monde, aux écolos, etc. Donc ça ne sert plus à rien, aujourd'hui, d'être parlementaire à l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Donc, moi, je pense.
Mais comment vous allez peser si vous avez un groupe de 10 sénateurs?
Le Petit Poussé, David et Goliath, il y a plein d'exemples, Jeanne d'Arc, il y a plein de gens dans l'histoire de France qui étaient tout seuls au départ et qui ont réussi à convaincre. Nous, on n'a pas vocation, ce n'est pas le Sénat qui va renverser la situation. Il y a des présidentielles, vous l'avez dit l'année prochaine. Mais si on a une première. Un premier point important, un grand pied vraiment au Sénat, et qu'on reparle des vrais sujets, et qu'on défende les sujets que le peuple attend. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Macron a peur du peuple, et c'est une des raisons pour lesquelles ils font tout pour juguler la parole, la liberté d'expression. Un autre exemple, pardon, vous m'avez coupé.
Allez-y.
Je peux finir. Sur Retailleau, vous m'avez coupé quand Retailleau était président du groupe. Il a quitté la présidence du groupe quand il est devenu ministre de l'Intérieur. Oui. Aujourd'hui, il est sénateur. Il est renouvelable. Il est en train de constituer une liste, parce que là, c'est un grand département, ce sont des listes à la proportionnelle. Il a constitué une liste avec qui? Avec des macronistes. Non, la boucle est bouclée. Là, aujourd'hui, j'ai pris connaissance, le 9 juillet, est sorti un rapport à la suite d'une mission parlementaire portée par 3 sénateurs, un UDI, un LR et un socialiste, qui vise à juguler la liberté d'expression sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en est là. Il y a tout le pouvoir de la Macronie et de ses acolytes, de ses complices, de ses partenaires, on va dire, qui visent à essayer de juguler le plus rapidement possible et le mieux possible la montée inexorable de la victoire de Marine Le Pen. Et puis, il y a ceux qui ont envie, eh bien, que renverser la situation et d'enfin de donner la parole au peuple qui l'attend depuis trop longtemps.
Vous pensez vraiment que Marine Le Pen sera présidente de la République française?
Écoutez, moi, je pense qu'elle est bien partie, c'est encore les sondages, et on verra bien. De toute façon, moi, je m'inscrirai dans la campagne avec Éric Ciotti, qui, je pense, a dit très clairement.
Mais qui fera campagne pour Marine Le Pen.
Il l'a dit très clairement. Et quant à Bardella, quant à lui, il a dit que s'il était Premier ministre, comme elle l'a annoncé, qu'il ferait un gouvernement très ouvert. Et parce que je crois que si elle arrive au pouvoir, si Bardella devient Premier ministre, il faudra faire une union nationale, comme ça a été le cas dans la grande histoire de France parlementaire, chaque fois qu'il fallait redresser le pays de grandes difficultés.
C'est-à-dire union nationale avec...
Avec tous ceux qui seront de bonne volonté, qui auront envie...
Y compris des partis de gauche.
Mais pourquoi pas? Je veux dire, il faut faire l'union des droites, déjà, une vraie union des droites. On appelle, nous, les LR, qui ne se retrouvent plus là-dedans, dans ce magma incompréhensible des positionnements de Wauquiez, de Retailleau, enfin, tous mes anciens amis politiques, on va dire. Moi, je suis très déçue par François-Xavier Bellamy. Je les ai tous reçus à Montauban.
C'est un sujet qu'on avait déjà abordé,
oui,
Mme Barrage.
Oui, je l'avais déjà
même,
dit.
Mais tout de même, ces personnes que vous citez, et Laurent Wauquiez, on peut aussi rajouter Gérard Larcher, ils sont dans une droite ligne du gaullisme.
Non. Enfin, écoutez, tout le monde se réclame du gaullisme, y compris François Hollande, ça fait doucement rigoler. Donc, attendez, moi, je prétends pas. Personne n'est l'héritier du général de Gaulle. Mais je pense, il a donné des directives. Et ces directives-là, ces principes, la souveraineté nationale, on l'a perdue tout au long. Moi, je souhaiterais qu'on la récupère, la souveraineté nationale, dans beaucoup de domaines. Sur le nucléaire, sur l'énergie, la souveraineté énergétique que Macron a bradée, en bradant Alstom, en fermant les centrales nucléaires, et puis en les réouvrant. Enfin, vraiment, aucune ligne politique, ce pauvre Macron. Ensuite, la souveraineté alimentaire. Les agriculteurs en savent quelque chose. Protéger l'Europe, pourquoi pas, mais qu'elle protège nos agriculteurs au lieu d'aller signer des traités avec le Mercosur. Tout cela donc, mérite d'être repris. La souveraineté, l'indépendance du pays, l'indépendance de la France, la force de la France à l'étranger et le respect qu'elle a suscité. Voilà la ligne du général de Gaulle. Et aujourd'hui, on en est bien loin.
Mais on vous sent pessimiste, en tout cas, sur l'avenir.
Non, je suis pessimiste sur la situation actuelle. Mais oui. Je suis toujours très optimiste sur l'avenir dès lors qu'on y met son courage et son énergie. Et je ferai tout pour inverser les choses, je vous l'ai dit.
Alors, à l'approche de la présidentielle, Brigitte Barrège, la France, elle traverse une période de doute. Tout le monde s'en rend compte, de recomposition politique et de fortes attentes. Les Français cherchent aujourd'hui un président capable de gérer, ou une présidente un pays, ou une personnalité capable de la transformer, selon vous. Gérer ou transformer?
C'est une véritable révolution. Je crois sincèrement.
Donc, transformation.
Il n'est pas question de changer la Constitution. Elle a fait son travail, la Constitution, c'est quand même, c'est pas le sujet. Mais il faut se donner les moyens de, je le redis, de retrouver notre souveraineté dans la politique migratoire, dans, je l'ai dit tout à l'heure, la défense de nos agriculteurs, la politique alimentaire, la souveraineté énergétique. C'est quand même fou qu'on paye le gaz, qu'on soit indexé, que notre électricité soit indexée sur le prix du gaz, alors que c'était la moins chère donc en Europe. Donc et puis pour les, je vais parler quand même des maires puisque c'est à eux que je m'adresse, qui retrouvent
justement
leur indépendance, qu'on respecte l'autonomie des communes, qu'on les dote des pouvoirs fiscaux qu'on avait autrefois. Macron a supprimé la taxe d'habitation, c'est une grosse perte de ressources pour les communes, mais également qu'on arrête de leur mettre des normes sans arrêt, qu'on leur donne une sécurité à la fois juridique et financière, qu'on enlève toutes ces entraves que sont toutes ces lois qui ont été votées, la loi Allure, la loi NOTRe qui a détricoté notre département. C'était M. Bailey, Mme Pinel qui était ministre à l'époque de Hollande et qui ont fait ces découpages à la maison de l'intercommunalité et des cantons. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs pour ce pauvre Jean-Michel Bailey.
Vous reviendrez-vous, pardon, je rebondis sur ce que vous venez d'indiquer, reviendrez-vous sur les grandes régions?
Eh bien, c'est ce que dit Éric Ciotti, c'est une proposition qu'il a faite, il faut en parler.
Oui.
Il dit que peut-être il faut quand même supprimer un échelon et peut-être créer, plutôt que ces grandes régions qui sont beaucoup trop grandes, ou ces petits départements, un échelon intermédiaire des provinces, mais avec des élus uniques, un peu l'idée qu'avait dit, vous vous souvenez peut-être Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, le conseil territorial qui était à la fois élu au département et à la région. Je pense qu'il faut détricoter tout ça et il faut se donner de la liberté et de la démocratie. Et la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, tout est en train de se concentrer entre les mains d'un seul homme, donc Emmanuel Macron, qui essaie de juguler l'expression populaire par le biais de cette agence. Il faut supprimer toutes ces agences, qui sont des successionnées de l'État, qui ne sont contrôlées par personne. Pense à l'ARCOM, qui a été mise à mal, notamment, vous savez, avec Charles Lalanne, le député UDR, sur sa mission parlementaire sur l'audiovisuel public. Eh bien, là, par exemple, eh bien, il faut renouer la liberté. Ça n'empêche pas de respecter la démocratie plus que jamais. La liberté d'expression, c'est fondamental. Et puis, désentraver tous ces liens, ces charges, ce gaspillage d'argent. Il faut libérer aussi les finances publiques. On a aujourd'hui 3 500 milliards de dettes. Il faut qu'on arrête avec le gaspillage. Nous avions, à l'époque, avec l'UDR, lancé dans tout un programme que vous trouvez sur Internet, Simplifions et libérons la France, qui parle de quelles sont les recettes, enfin les propositions en tout cas, de faire des économies très importantes, par exemple, dans tous les domaines, et pour pouvoir retrouver et arrêter arrêter d'augmenter les impôts et les charges de ceux qui travaillent au profit de gens qui n'ont pas envie de travailler.
Dans le cas d'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, que vous serez candidate à un poste de secrétaire d'État ou de ministre,
je pense que d'abord, ça ne se passe pas comme ça. J'imagine, moi je suis candidate au niveau où je serai, de pouvoir participer à la place qu'on voudra bien me donner, mais je ne revendique rien.
Vous ne revendiquez pas, mais si on vient vous chercher?
Je ne sais pas.
Vous dites pas
non. On ne se pose pas, donc je n'en parle même pas.
Un message que vous souhaitez transmettre aux grands électeurs, aux maires et à ceux qui vont voter pour les sénatoriales en septembre prochain.
Oui.
On rappelle la date du scrutin, c'est le 27
septembre. Je voudrais leur dire que j'ai bien vu les déclarations de campagne de mes concurrents, on va dire concurrents, tous parlent, ils sont des élus de proximité, bon, je crois que je le suis largement depuis 25 ans, qui sont candidats du territoire et du quotidien. Non, il faut qu'on parle réellement des vrais sujets, et c'est ce que je vais m'employer à faire tout au long de cette campagne, en parallèle des rencontres individuelles que je ferai avec chacun d'entre eux, pour entendre ce qu'ils ont à dire. Je ferai des propositions, et je rappellerai surtout pourquoi on en est là aujourd'hui, et comment on peut faire pour en revenir, et surtout, quel bilan portent ces candidats, parce que tous, que ce soit eux directement ou leurs partis politiques, sont responsables de l'état de déliquescence de la France. Et ça, il faudra s'en souvenir. Comment croire, et je parlerai de crédibilité, comment croire aujourd'hui des gens qui vous promettent ce qu'ils n'ont pas fait hier et qui promettent de faire demain et qui est tout à fait le contraire? Je pense au nucléaire, par exemple. Je pense à ce gaspillage sur les énergies renouvelables. Moi, je suis anti-éolienne. Hein. Bon, c'est un détail. Mais quand on voit tout le gaspillage d'argent qu'on a mis là-dedans, alors qu'on avait la chance d'avoir une énergie qui n'était pas chère, qui était efficace et qui ne coûtait rien. Donc, je voudrais revenir au grand principe du général de Gaulle.
Merci beaucoup en tout cas Brigitte Barrèche d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. On rappelle, vous êtes donc candidate aux élections sénatoriales de septembre prochain.
Merci beaucoup.
Merci.
Vos podcasts et replays, podcasts et replays. cfmradio.fr